Bien. Alors c'est un peu la question, c'est d'où vient ce sida, quoi. Tout à coup, on n'en parlait pas, et puis tout à coup, paf, le sida. Il est là, il fait peur à tout le monde, il faut plus faire l'amour comme ça, il faut plus faire l'amour comme ci, il faut faire... Ah, tout ça, c'est la nouvelle peste, on va tous mourir du sida. Les homosexuels, ils sont tous enfermés, ils ne devraient plus jamais faire l'amour. C'est eux, on les lynche dans la rue, dans les bus qu'on envoie, tout le monde, ça fait peur à tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Alors moi, j'ai une date ici, en juin 1980. Comment ça se fait que on peut vraiment dire tac, tomber du ciel, tomber de je ne sais pas quelle planète arrive ce virus? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ça n'existait pas avant ou quoi?
Non, je crois que ça existait probablement avant, mais simplement là, en juin 80, il y a eu une coïncidence très très grande, c'est-à-dire qu'il y a eu 5 cas de jeunes homosexuels qui ont développé des infections à germes opportunistes, c'est-à-dire des germes qui profitent de l'immunité abaissée. Donc, qu'on voit souvent chez les gens, par exemple, greffés rénaux, qui reçoivent des médicaments pour éviter que les cellules rejettent la greffe, mais qui en même temps peuvent attraper toutes sortes d'infections qui normalement ne sont pas pathogènes chez quelqu'un qui se défend très bien. Donc tout d'un coup, dans un même endroit, c'est-à-dire la Californie, on a eu 5 cas particuliers. Et on tient un compte très très exact de toutes ces infections opportunistes parce qu'elles sont rares. Alors c'est de là que tout est parti, qu'on s'est demandé pourquoi c'était 5 homosexuels, pourquoi la même pneumonie à Pneumocyste carinii, ça c'est l'agent opportuniste, et puis tout s'est enchaîné. Là-dessus. Bon, il y a aussi une théorie politico-économique, c'est que Reagan, quand il est arrivé au pouvoir, a coupé beaucoup de fonds sociaux et notamment à la recherche médicale, et qu'il semblerait qu'il y ait 5 chefs de laboratoire américains qui aient décidé de monter ça en épingle et de profiter de la panique des gens pour obtenir des fonds de recherche sur cet état de immunitaire déficient. Faut dire que l'immunologie est très en vogue, je crois pas à tort, c'est vraiment de là que viennent la plupart des troubles. Et ils en ont profité. Alors ça, c'est sous toute réserve parce que j'ai pas retrouvé d'article là-dessus, mais après la parution de ces cas d'immunodéficience acquise, y a les fonds ont absolument quintuplé. Et ça correspondait aussi avec la recherche sur le cancer, qui est de plus en plus dirigée vers une origine virale des cancers, de tous les cancers d'ailleurs.
Donc en fait, le sida aurait existé avant, mais on se serait pas aperçu. On
C'est-à-dire,
l'aurait.
ce serait des prostituées qui auraient été malades, et comme c'est une population dont on se préoccupe beaucoup moins, ça aurait pu prendre des années. Puis bon, les homosexuels, c'est aussi une population dont on ne se préoccupe pas énormément, jusqu'au jour où peut-être ça tombe dans l'intérêt de quelqu'un, ou bien parce qu'ils sont eux-mêmes d'une classe sociale plus élevée, ou bien parce que le prof de la faculté même, ça l'intéresse. Donc je crois
Donc
que.
toi, tu penses que le sida existait avant, mais qu'il n'était pas.
Qu'il n'était pas suffisamment intéressant.
Qui n'était pas intéressant et puis qu'on l'appelait autrement, c'est-à-dire qu'il était
On l'avait pas
classé,
reconnu,
on
on
l'avait
l'avait
pas
pas
reconnu,
reconnu comme
donc on
tel.
le classait sous une autre maladie.
C'est pas la théorie que tient Luc Montagnier, qui est donc le chef de l'Institut Pasteur, qui a découvert le virus du sida, le LAV. Lui dit qu'en fait, c'est vraiment une nouvelle maladie, probablement due à une mutation d'un virus qui s'est très rapidement propagé dans les populations qui ont des relations sexuelles très très fréquentes. Et on sait que les virus qui ont beaucoup de réservoirs humains atteignent une virulence beaucoup plus grande que des virus qui restent isolés. Donc, d'après ce grand ponte de l'Institut Pasteur, c'est absolument pas une maladie ancienne, comme par exemple la maladie des légionnaires, qui était une bactérie qui sévissait depuis longtemps, mais simplement comme on la connaissait pas, on l'a reconnue après coup. Et d'après lui, le sida, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, effectivement, on peut tenir les deux théories. Je pense que même on saura jamais.
Alors attends, quand tu dis un pool humain, ça voudrait dire que les homosexuels avec rapport très fréquent serait un groupement, serait une espèce de ghetto où le virus pourrait très bien se développer. Parce que de fait, il y aurait tous ces gens qui vivent souvent dans des lieux proches, sont en contact les uns avec les autres. Et donc, ça ferait un milieu de culture plus riche que si ces gens étaient simplement disséminés dans une autre population.
Oui, mais il n'y a pas seulement ça. C'est que probablement, le virus a besoin de cofacteurs qu'on n'a pas encore très bien déterminés. C'est-à-dire qu'il faudrait un milieu particulier. Et il semblerait que justement ces groupes à risque, comme les homosexuels, sont des gens qui ont beaucoup plus souvent des infections virales comme l'hépatite, comme les chlamydias, comme l'herpès, et que ça favoriserait l'apparition, enfin l'introduction du virus du sida. Et d'ailleurs, on retrouve ça aussi dans les autres groupes à risque, les toxicomanes qui ont souvent des hépatites, etc., etc.
Donc en fait, n'attraperait le sida que des gens qui ont déjà une immunité un peu déficiente.
Voilà, parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que le sida, c'est une dénomination un petit peu bizarre, parce qu'il y a les syndromes d'immunité, d'immunodéficience acquise, on les retrouve, comme j'ai dit déjà avant, après une hépatite, après un herpès, ça provoque des débalancements immunitaires. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement là c'est plus fulgurant. C'est...
Donc en fait les homosexuels c'est pas dû nécessairement au type de pratique sexuelle. Non. Ce serait au fait que c'est des gens qui ont des rapports multiples et puis qu'il pourrait y avoir un contact entre sperme et sang à cause de petites lésions de la peau. C'est ça.
Aussi. Et puis,
oui, excuse-moi.
Un autre point commun qu'ils pourraient avoir, c'est qu'ils pourraient avoir par exemple le même type d'hygiène de vie. Ça veut dire qu'ils pourraient peut-être, par exemple, avoir une alimentation déficiente. Ils pourraient avoir ça en commun. Ils pourraient avoir en commun le fait de consommer trop d'alcool, le fait de consommer trop de drogue. Ça pourrait être un autre facteur qu'ils pourraient avoir en commun et qui déprimerait leur immunité.
Bien, alors, ce qui fait aussi peur quand même dans cette maladie, c'est vrai, c'est ce lien avec le sexe, à tel point d'ailleurs, il faudrait quand même rappeler qu'en Allemagne, on veut prendre des mesures très très draconiennes, et le ministère de la Santé en Allemagne a proposé que les homosexuels n'aient plus du tout de relations sexuelles, et que s'ils contrevenaient, on pourrait les mettre en prison. Alors, je ne sais pas très bien comment ils vont contrôler ça, mais disons, c'est vraiment quelque chose qui est très présent, aussi parce qu'il faut le dire, c'est une maladie qui est très mortelle. Je veux dire, il y a environ 80% de morts.
Il faut rajouter à ça les pompiers anglais qui refusent maintenant de réanimer les homosexuels, de peur d'attraper le sida. Non, il y a eu une récupération énorme du point de vue bigot, morale sexuelle, etc.
Mais tout cela, c'est toujours quand même la même chose que ces écoles aux États-Unis où on refuse un petit enfant herpétique dans l'école de peur. Hein, c'est les comités de parents qui font éjecter l'enfant de l'école de peur que leurs enfants se fasse contaminer par lui. Au fond, c'est la même idée, mais développée. Et c'est toujours une idée qui veut placer le problème d'une manière exogène. Ça veut dire, c'est un virus, c'est un agent extérieur, et puis un désintérêt par rapport aux facteurs intérieurs, c'est-à-dire aux facteurs qui font que certains des enfants de l'école peuvent être susceptibles de contracter cet herpès, alors que d'autres enfants de l'école resteront toujours dans le groupe des non-herpétiques. Et on pourrait avoir la même attitude par rapport au sida, au lieu de toujours placer la crainte sur quelque chose d'extérieur et qui risque de nous tomber sur la tête comme une tuile, s'intéresser aux facteurs intérieurs.
Oh, und, oh, oh.
Vous êtes toujours sur Radio Pleine Lune, 101,4 MHz. Nous sommes en plein dans un débat assez passionné sur le sida et l'herpès. Et nous venons d'écouter, nous écoutons pendant toute cette émission de la musique de Klaus Naomi. Klaus Naomi, c'est un jeune Américain qui est mort lui-même du sida. Je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner au 40 51 41 023 depuis la Suisse pour poser toutes vos questions. Alors moi, ma question, c'est un peu donc, on l'a vu, c'est une maladie très mortelle quand même. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Est-ce que c'est combien de gens? Quelle est l'ampleur de cette maladie? On a l'impression quand on lit les journaux que demain, la moitié de l'humanité va mourir du sida. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi?
Disons que le taux de létalité de la maladie sida, c'est-à-dire le nombre de personnes qui meurent sur le nombre de personnes qui sont atteintes par la maladie, est à peu près de 50%. Tout ça parce qu'on n'a pas encore développé la thérapeutique. Comme j'ai dit avant, les médicaments antiviraux sont à l'essai. C'est très difficile de les faire parce que ça intervient aussi sur les cellules du corps. Et c'est à peu près 50%.
De gens qui des ont, gens qui ont, mais en plus on meurt très vite.
Qui ont le sida, c'est-à-dire qui ont le sarcome de Kaposi, qui ont l'infection opportuniste et qui ont les lymphomes cérébraux. Mmh. Ça, c'est la définition classique maintenant du sida.
Et on meurt vite parce que bon, il y a d'autres maladies qui ont une létalité très forte. Si on prend les cancers, mais on meurt plus lentement.
Oui, mais on meurt moins vite avec le sida qu'avec que des infections extrêmement aiguës, bactériennes ou genre méningite et compagnie.
Alors, d'après ce que je peux lire, il y a environ 10 000 cas aux États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est vraiment le pays du sida. Hein. Il y a environ, moi, je lis là 10 000 cas de sida. Je ne sais pas s'il y a des chiffres.
Parce qu'ils veulent bien les compter. Il y en a d'autres qui ne les comptent pas.
Exactement, c'est ça. Je crois qu'il faut beaucoup se méfier actuellement de ces données épidémiologiques parce qu'elles sont relativement mal organisées. En Europe, on avait un chiffre, il y a une année, de 8% d'Africains qui avaient le sida. Surtout les cas de sida détectés en Europe. Et puis, au moment où la Belgique est intervenue dans le comptage des cas de sida, on avait tout d'un coup 15% d'Africains parmi les malades du sida en Europe. Mais tout ça parce que les Aérois viennent se faire soigner en Belgique. Donc, les chiffres changent comme ça d'un jour à l'autre parce que tout d'un coup, un pays se met du comité de comptage du sida. Et puis, donc, pour le moment, on peut vraiment pas se fier aux chiffres. Ils sont extrêmement variables. Dès qu'un nouveau pays se mêle de statistiques, alors ça augmente les pourcentages dans tous les sens. C'est encore pas des données épidémiologiques qui sont très sûres.
Mais disons, je sais pas si je crois... si je prends la Suisse, je crois que ça tourne autour des 50 cas de sida.
Oui, c'est ça, oui.
En tout cas, on ne peut pas encore dire
que c'est une maladie ravageuse.
Non, on n'oserait pas.
Et puis maintenant, tout le monde est braqué sur le sida. Genre, si un médecin trouve quelqu'un qui a des signes biologiques du sida sanguin, plus des anticorps, etc., bon, automatiquement le taxer de sida, ce qui n'est pas forcé. J'entends, on ne sait encore rien. Il y a peut-être d'autres pathologies qu'on ne connaît pas qui sont taxées de sida.
Mais on sait que dans la médecine, il y a des noms de maladies comme ça qui sont des noms fourre-tout, dans lesquels on met toutes sortes d'angoisses. Dans les maladies mentales, par exemple, c'est la schizophrénie. Voilà, c'est le diagnostic fourre-tout dans lequel on met toutes sortes d'inconnus. Et là aussi, il faut se méfier. Ouais. Est-ce que ça veut vraiment dire numériquement
Et surtout que le sida est à la mode, quoi. Tout le monde est sensibilisé à ce problème et donc on va se braquer là-dessus plutôt que sur autre chose.
Mmh. Donc en fait, pour toi, ça reste un phénomène important, mais qui est quand même marginal par rapport à d'autres problèmes de santé qui sont plus graves.
Tout à fait. Donc c'est une maladie réelle, je pense que ça, on ne peut pas le contester. Mais simplement, on lui donne une importance dingue parce qu'il y a aussi toute l'économie, la recherche médicale qui est là derrière.
Pour toi, ce serait donc des raisons politico-financières qui mettraient ça en...
Oui, et des questions de mode, quoi. Après la tuberculose, après le cancer, après les huiles frelatées espagnoles, après le syndrome de Wegener, après y a le sida. Bon, là, j'y vais un peu fort. Je répète que c'est une maladie réelle.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu toujours des espèces de retours, justement, à des notions de peste, comme ça, des maladies d'origine divine, presque, je ne sais pas, quelque chose qui nous tombe dessus pour nous punir? Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ces campagnes contre le sida, cette idée-là? C'est une peste, c'est là, c'est un signe du temps.
D'autant plus que c'est souvent le symbole de civilisation. C'est en quelque sorte une espèce de métaphore. Comme la tuberculose était du temps des romantiques, était le mal des jeunes gens passionnés, des femmes passionnées, Marguerite Gauthier, etc., qui attrapaient la tuberculose. Après le cancer, c'était plutôt des gens qui étaient retenus dans leur passion sexuelle. Donc, ils attrapaient le cancer. Maintenant, c'est le contraire. Les gens qui, avec ce débridement sexuel qu'il y a depuis 10-15 ans, on repart là-dessus, quoi.
Mais pour toi, c'est pas une maladie qui est associée à ce débridement sexuel. Elle ne vient pas de là.
Non, pas vraiment.
Elle se retrouve quand même chez une série de gens qui ont un comportement sexuel assez défini, enfin, c'est typé. C'est les gens qui ont beaucoup de rapports, qui utilisent en même temps des euphorisants ou des produits pour augmenter l'orgasme. C'est des gens qui peuvent avoir aussi des rapports un petit peu violents parfois. Donc, Il y a quand même, il y a, moi, je trouve qu'il y a quand même une corrélation entre un type de sexualité et le sida, non?
Oh oui, c'est lié, mais c'est aussi récupéré par la morale, par toutes sortes d'idées qui flottent en ce moment dans l'air.
Mais il y aurait une autre manière de voir la chose, c'est de se dire oui, c'est une maladie extrêmement intéressante parce qu'elle peut peut-être nous donner l'occasion d'essayer de comprendre mieux ce que c'est que l'immunité. Hein, on va quand même pas parler du cancer au passé, comme tu disais, tuberculose, cancer, sida, comme si le cancer, ça faisait déjà partie du passé et que le sida, ça faisait partie de l'actualité. Si on arrivait un petit peu mieux à comprendre pourquoi une cellule dérape ou pourquoi l'immunité baisse, on pourrait améliorer la santé de toutes nos populations substantiellement. Donc il y aurait une manière positive et constructive avec laquelle on pourrait considérer la gravité de ce sida, mais malheureusement, on doit bien constater quand on lit la presse que c'est pas ça qui se passe.
Donc toi, tu voudrais dire, oui, d'accord, ça provient peut-être d'un type de sexualité, mais essayons plutôt de comprendre et renforcer nos corps plutôt que de limiter cette sexualité.
C'est-à-dire qu'il faudrait intégrer la sexualité dans les autres éléments d'hygiène de vie de ces personnes. Et puis la prendre au même compte que l'alcool qu'il consomme, les drogues qu'il consomme, la manière qu'il a de s'alimenter, s'il fait de l'exercice physique ou pas, l'air qu'il respire, et prendre tout ça au même niveau, sans critère de moralité, sur le facteur sexuel et sur les autres facteurs que je viens de citer. Puis essayer de les étudier tous et puis de voir comment, en modifiant un, l'autre, et de quelle façon on arriverait à améliorer la situation. Ce serait une manière pas morale d'étudier le problème, et c'est, encore une fois, je ne crois pas que c'est ce qui se passe.
Non, effectivement, parce que bon, le sida est intervenu, comme j'ai déjà dit, au milieu de la recherche sur le cancer, avec une probable origine virale de tous les cancers, et puis les gens ont sauté là-dessus, parce que c'est un virus qui est apparenté aux virus qui causent des cancers, qui sont prouvés causer des cancers chez les êtres humains. C'est des virus à RNA, donc qui s'appellent les rétrovirus, et qui sont tout à fait spécifiques des cancers, des leucémies, des sarcomes. Et ce virus-là est apparenté aux rétrovirus, simplement il cause l'inverse, au lieu d'une multiplication cellulaire, il cause une mort cellulaire. Mais ça a permis d'immenses progrès. Donc les gens se braquent sur la virologie, en fait. C'est une occasion de perfectionner nos connaissances médicales sur les virus. Et c'est vrai que l'histoire de l'immunodéficience est au second plan, quoi.
Donc d'ailleurs, tu m'avais parlé d'une expérience qui a été faite sur des singes où on n'a jamais pu inoculer le virus du sida au singe, où on n'a jamais pu rendre un singe malade du sida.
Voilà, là je connais mal l'expérience qui a été faite sur ces singes, mais ce que je sais, c'est que c'est probablement des singes en bonne santé, donc qui ont eu une immunité tout à fait intègre et qui n'ont absolument pas développé le sida malgré des inoculations répétées. Bon, ça fait que 2 ans que cette expérience a été tentée, et donc. En principe, le temps d'incubation du sida, c'est 5 ans. Alors, il faut voir dans 3 ans. Mais pour le moment, il n'y a aucun des singes inoculés par le virus du sida qui a attrapé le sida.
Ça me rappelle la fantastique histoire de la doctoresse Kousmine qui était débutante dans sa carrière et qui voulait étudier le cancer et qui avait ramené des souris de Paris, qui étaient des souris qui avaient un taux de cancer absolument faramineux. Puis au laboratoire où il les avait achetées, ils mangeaient de la bouffe en comprimé. Et puis l'eau venait avec une espèce de microdoseur, splatch, splatch, qui leur envoyait cette dose d'eau. Bon, puis elle n'avait pas tout cet argent, alors elle a fait beaucoup plus simple. Elle leur a donné un jour carotte, un jour betterave et un jour blé. Et puis elle alternait entre ces 3 repas à la place de ses cachets. Puis elle s'est rendue compte qu'à sa 2e génération, le taux de cancer était en train de baisser lamentablement, que c'était vraiment un scandale. Comment est-ce qu'on a pu me le livrer, un échantillonnage pareil? Comment je vais faire pour travailler avec ces souris? C'est seulement 40 ans plus tard qu'elle a pu réinterpréter la valeur que ça avait, ce qui s'était passé avec ces souris. Ça doit être assez pareil avec ces singes, quoi. Ils sont pas assez foutus.
Donc en fait, le virus donc ne frappe que des gens qui ont des problèmes immunitaires, qui ont déjà eu des infections, puisque, d'après ce que je crois savoir, c'est un virus qui va justement frapper les protéines T4, donc qui ont été sécrétées au moment d'une infection.
Ben, c'est-à-dire que c'est un
Donc
virus.
elle va infecter les lymphocytes, donc les cellules qui vont justement lutter contre les infections.
Voilà. La plupart des virus diminuent l'immunité par d'autres mécanismes. Ce virus-là, il attaque directement les cellules impliquées dans l'immunité. C'est-à-dire qu'il attaque les cellules lymphocytes T4 qui sont chargées d'organiser toute la défense corporelle contre une agression étrangère.
Bien, alors on va écouter un peu de musique. Alors on vient de nous téléphoner pour nous taper sur les doigts. Klaus Naumi n'est pas américain, il est suisse et il a quand même une voix magnifique. Je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner pour poser vos questions au 40 51 41 023 depuis la Suisse. Bien, alors on n'arrive pas à se mettre d'accord, vous êtes toujours sur Radio Pleine Lune, 5,4 MHz, on n'arrive absolument pas à se mettre d'accord sur les origines de Klaus Naumi. Il y en a qui disent qu'il est allemand, d'autres qu'il est suisse, d'autres qu'il est américain, mais bon, on sait qu'il est mort du sida, c'est peut-être justement ça, cette auréole, vous voyez, on ne sait pas d'où vient le sida, c'est très...
C'est très vague.
C'est très vague. Bien, mais il y a quand même, on a pu mettre en évidence, parce que depuis que le sida a été découvert, comme ça, justement, en 81, on a assisté à une profusion de recherches médicales, et je crois qu'on peut dire que dans l'histoire, ça n'a jamais été aussi vite médicalement, et on a pu mettre en évidence, en tout cas, deux virus qui seraient responsables du sida, un aux États-Unis, le HTVL4, ou je ne sais pas quoi,
3.
Bon. Et en France, le LAV. Mais on a pu surtout mettre en évidence dans le sang des antigènes, des anticorps spécifiques des anticorps au LAV, ce qui voudrait dire que la personne aurait été en contact avec ce virus et elle aurait produit ces anticorps. Alors se pose toute la problématique du dépistage. On veut de plus en plus essayer de mettre sur pied des campagnes de prévention du sida en dépistant les gens qui seraient porteurs. Alors qu'est-ce que tu penses, toi, de ces campagnes qui seraient donc de regarder soit dans des populations à risque, de leur faire des prises de sang pour savoir si oui ou non elles sont porteuses de l'anticorps du LAV.
Pour le moment, je crois que ça ne fera que continuer le flou total, parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec cette population qui a des anticorps positifs. On n'a absolument aucune idée ni de ce qu'on pourrait leur proposer. Donc, on n'a pas de traitement non plus. Donc, on peut se questionner sur ces dépistages. Bon, à part l'intérêt que ça peut avoir pour les laboratoires, comme on sait, c'est un marché qui est assez énorme, et une compétition qui est assez tendue entre la France et les États-Unis, et des investissements énormes là derrière. Mais par le fait qu'il n'y a pas de proposition à faire, ça ne peut ressembler que à une manière d'augmenter la répression, d'augmenter le contrôle sur les gens, même quand on ne sait pas que faire de ces facteurs. Alors c'est un peu désolant.
Mais tu veux dire qu'on ne sait pas comment soigner les gens, ou est-ce que être porteur, ça veut encore rien dire?
C'est qu'on ne sait pas que penser de ceux qui ont des anticorps positifs.
On ne sait pas si ce qu'ils vont devenir.
Non, on n'a absolument aucune idée. On ne sait même pas s'ils sont encore contagieux pour leur tiers dans la société, ou s'ils ne le sont plus et qu'ils ne le seront jamais, ou s'ils le seront de nouveau, et si alors dans quelle échéance. On ne sait rien de tout cela.
Est-ce qu'ils vont développer le sida ou pas? Enfin, c'est vrai que c'est le flou total.
Parce que, on l'a déjà dit au début de l'émission, il y a énormément plus de gens qui sont porteurs, mais qui sont porteurs des anticorps. Donc, ils ne sont pas porteurs du virus pour l'instant.
Non. Hein. Ça veut dire que les anticorps prouvent qu'ils ont été en contact avec le virus. Mais quant à savoir s'ils l'ont toujours, s'ils l'ont plus, s'ils vont développer un sida ou pas, s'ils peuvent le transmettre à leur compagne, compagnon, etc., on ne sait rien.
Mais quand même, si on prend par exemple les donneurs de sang, on sait quand même qu'il y a, c'est une mode de transmission du sida. Alors, est-ce qu'on peut imaginer faire ce type de détection chez les donneurs de sang?
Non, mais on fait aussi d'autres détections. Je veux dire, il y a des détections qui sont pour protéger le donneur, pour que lui ne s'esquinte pas en donnant son sang. Puis il y a des protections qui sont faites pour le receveur. Par exemple, le sang soit du même groupe. On fait quand même deux, trois choses qu'on vérifie sur le sang qui peuvent être utiles ou pour le donneur ou pour le receveur. Si on veut le prendre uniquement de cette façon, c'est-à-dire sans que ça n'entraîne aucune conséquence pour le donneur, à l'extérieur, par exemple, dans le reste de la société, à son emploi ou Dieu sait où, c'est encore considérable, sauf que pour le moment, c'est encore trop vague ce qu'on en ferait. Donc, ce serait plutôt dans le futur qu'on pourrait l'utiliser de cette même manière-là, comme on vérifie l'hémoglobine, comme on vérifie le groupe, on pourrait vérifier ça et puis écarter ces lots de sang. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là.
Ouais, puis, on pourrait imaginer une espèce de contrôle des gens qui sont positifs, qui ont des anticorps anti-sida, et de les contrôler toutes les années. Mais encore, ça, c'est dans le flou, quoi.
Oui, mais est-ce que, moi, je ne sais pas, hein, je me prends moi, je vais donner mon sang. On me dit, madame, vous savez, vous avez les anticorps du sida, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me mettrais à flipper sec. Hein, et j'aurais terriblement peur. Je veux dire, et c'est une peur qu'on ne peut pas... je sais pas, je lis ici, par exemple, une petite nouvelle qui est parue en mars, une petite nouvelle où un étudiant en médecine de 26 ans a tué sa mère, son frère et blessé son père à coups de marteau pendant leur sommeil parce qu'il se croyait atteint du sida et il pensait avoir contaminé sa famille. Il a ensuite tenté de se suicider. Alors, je veux dire, ce genre de panique-là, c'est des problèmes réels. Bon, là, c'est un peu loin. Mais disons, si je me prenais moi, je crois que savoir que j'étais porteuse, que je suis porteuse, et que peut-être que je vais l'avoir, etc., ce serait... Et ça introduirait une panique terrible.
C'est le délire même. Parce que, imagine-toi, ton attitude par rapport aux autres examens du même acabit. Au début d'une grossesse, si tu apprends que tu as fait la toxoplasmose, c'est-à-dire que tu as des anticorps contre la toxoplasmose, tu es contente. Tu te dis, c'est formidable, ce cap-là, je l'ai déjà passé, j'ai des anticorps, oui, donc je suis bon.
Le sida, il y a quand même la mort.
Oui, mais il y a la mort pour un très petit nombre de cas qui est encore la moitié des cas qui, eux, sont malades. On ne peut pas considérer tous les gens qui ont des anticorps comme des victimes et des pauvres malheureux, alors qu'en fait, c'est ceux qui ont réussi à se défendre. Il y a ceux qui ont réussi à se défendre contre la rubéole, ceux qui ont réussi à se défendre contre ceci, contre cela. C'est peut-être même au contraire une preuve d'un fonctionnement qui est encore normal dans la rencontre d'un étranger qui s'introduit dans son corps. Il y a un système immunitaire qui s'organise, craque l'armée qui se lève contre cet ennemi. Ça pourrait être considéré d'une manière beaucoup plus positive.
Puis, il faut dire aussi que dans ces tests, il y a pas mal de faux positifs et de faux négatifs. Faux négatifs, c'est-à-dire qu'on te dit tu n'as pas d'anticorps anti-sida, mais en fait, tu les as. Et puis, faux positif, on te dit tu as les anticorps anti-sida, donc tu flippes, mais en fait, tu les as pas. Donc, c'est un test qui n'a pas une sensibilité, une spécificité extrême et qui reste dans le flou, quoi, comme toute l'histoire du sida.
Mais par exemple, il y a quand même par exemple, le cas des enfants. Il y a eu, je crois, une centaine de cas d'enfants qui ont eu le sida, je ne sais pas combien de morts, de petits-enfants, donc ils l'ont attrapé via leur mère, on pense. Mmh. Alors là, ils l'attrapent comment ? À travers la barrière placentaire, donc des femmes qui seraient porteuses, ou comment ça se passe ?
Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si ça passe la barrière placentaire, on ne sait pas si ça s'est passé peut-être au moment de l'accouchement, s'il y a eu une toute petite lésion, si la femme a été elle-même, qu'elle a eu une épisiotomie, par exemple, et que le bébé, lui, il avait une petite plaie quelque part, et que le sang est entré en contact, on ne sait pas exactement.
Il se pourrait donc que ce soit des femmes porteuses qui transmettent le virus, donc qui transmettent la maladie.
Mais oui, comme beaucoup de maladies, on ne va pas pouvoir l'empêcher, puisque c'est sa définition même de se transmettre d'une personne à l'autre. Puis on ne devrait pas... c'est pareil pour la grippe, comme elle disait tout à l'heure. Là aussi, on n'arrive pas à empêcher qu'il y ait une certaine propagation. Ça fait partie même de son mécanisme.
Donc en gros, vous êtes pas tout à fait, vous pensez que ça ne vaut pas on ne peut pas actuellement utiliser ce test-là comme prévention.
On peut l'utiliser pour faire des recherches, c'est son utilité principale.
Mais vous seriez pour dire à quelqu'un, vous êtes porteur de l'anticorps.
Non, par contre, je serais pour faire des expériences qu'on ne fait absolument pas sur comment on pourrait diable relever l'immunité des sujets intéressés.
Mais là, on est obligé de lui dire. On est obligé de lui dire puisqu'on va le suivre. On va lui faire on va le faire venir, on va essayer de travailler avec lui. Donc, on est obligé de lui dire.
Mais lui, peut-être pas qu'il aura une immunité tellement déficiente, justement. On pourrait le vérifier. Peut-être si ce n'est pas le cas, il est peinard. Tandis que l'autre qui fait un herpès tous les mois et que ça fait 3 ans que ça dure, lui, par exemple, peut-être, il aurait plus de risques de faire ce sida s'il rencontrait l'autre, celui qui a des anticorps puis qui, en fait, est peinard.
Donc on toucherait plutôt les gens, c'est-à-dire on pourrait dire les gens qui ont une immunité, qui sont herpétiques, qui ont eu des hépatites, etc. Ces gens-là, on pourrait faire un suivi s'ils étaient porteurs, tandis que les autres qui ne sont pas, on les laisserait aller, mais avec le risque qu'ils puissent contaminer une personne qui elle.
Sur la contamination, on n'y arrivera jamais. On le voit depuis assez longtemps. Je veux dire, on a tellement de difficultés, même avec les antibiotiques, même dans un domaine qu'on dit pourtant mieux contrôlé. On voit bien qu'il y a sans cesse des mutations, qu'on a extrêmement de difficultés à suivre le rythme. On voit bien que dans les hôpitaux, plus on emploie de désinfectants, plus il y a des germes incontrôlables et des maladies qui se disséminent à l'intérieur de l'hôpital, chez des gens faibles, avec des germes encore beaucoup plus dangereux que ceux qu'on a à la place Bel Air, dans nos rues, dans nos villages. Donc on voit bien que s'obstiner à essayer de raisonner uniquement sur le facteur contamination, par où ça passe, qui me l'a passé, ça ne va pas nous amener bien loin, qu'il faudrait prendre le temps de considérer ce qui fait l'individu, ce qui fait qu'il est fort, ce qui fait qu'il est faible et comment on peut le... l'aider?
Sur la peur de la contagion, j'aimerais juste dire qu'en fait, sur tout le personnel médical mondial qui a soigné les gens du sida, il y a un infirmier qui a été contaminé par le sida et cet infirmier était homosexuel. Donc, est-ce qu'il l'a attrapé par d'autres voies? Donc, c'est juste pour montrer que, en fait, cette contamination, cette virulence, elle est très restreinte, quoi. On ne sait pas encore très bien comment elle s'organise, mais qu'il n'y a pas de panique à avoir. Moi, je crois qu'il y a vraiment.
Oui, mais quand même, c'est une maladie qui a une courbe épidémique. Je veux dire, bon, en 81, les premiers cas sont en tout cas décrits comme étant sida. Et puis maintenant, je veux dire, si on compte l'année 83-84, on a 4 000 cas nouveaux.
Ouais. Mais elle a une courbe épidémique dans une certaine population à risque, qui est très particulière, qui est homosexuelle, qui est toxicomane, qui est.
Oui, mais disons, c'est une population à risque, je ne sais pas, qui est. Elle est effectivement très particulière et elle nous touche de très près, je veux dire. C'est pas.
Et elle a le droit de vivre comme les autres, absolument. C'est bien pour ça
Non, parce
qu'il
que
y a
je veux dire, il y a
certainement
des
du travail à
populations.
faire sur
Il
ce
y a des
problème.
populations à risque qui sont des populations à risque au niveau de la santé. Et puis là, ce sont des populations à risque au niveau d'un comportement social.
Non,
Je veux
pas
dire.
uniquement. Tu peux pas le restreindre à ça. C'est vraiment trop réducteur de ramener toujours le problème qu'au niveau de la contamination sexuelle. Il y a d'autres facteurs qui font que ces personnes ont une immunité qui est déficiente et il faut absolument arriver à les prendre tous en compte si on veut avancer. Sinon, on ramène toujours cette histoire à la génitalité, à la sexualité, à la culpabilité finalement, et c'est autodestructif.
Bien, vous avez peut-être aussi, vous, des questions à poser. Téléphonez au 40 51 41 023 depuis la Suisse. Donc, vous êtes sur Radio Pleine Lune, 5,4 MHz. On continue sur notre débat sur le sida et l'herpès. Mais c'est pour l'instant, on parle beaucoup du sida. Alors, on a parlé des tests de prévention. Il faut quand même préciser qu'à Genève, quand vous allez donner votre sang depuis une année, on vous distribue un papier qui vous parle, qui vous met en garde contre les maladies qui sont transmissibles par le sang. C'est l'hépatite, la syphilis et la malaria, et bien sûr le sida. Alors, comme on ne sait pas quoi faire avec le sida, comme on vient de vous le dire, qu'à Genève se pratique toujours pas le test de détection des anticorps, il y a un questionnaire qui vous demande si vous êtes homosexuel masculin changeant fréquemment de partenaire, si vous êtes un toxicomane qui s'injecte des drogues par voie intraveineuse, si vous êtes un immigrant d'Afrique centrale, le Zaïre, le Tchad ou d'Haïti, si vous êtes un partenaire sexuel masculin et féminin des personnes appartenant aux trois premiers groupes, alors on vous recommande de vous abstenir de donner votre sang. Donc il y a déjà en fait à Genève même une ségrégation au niveau des donneurs de sang qui peut aussi avoir des répercussions sociales et personnelles qui peuvent être assez conséquentes. Bon, on arrive vers le terme de notre émission. Alors, il y a un débat que j'ai éludé jusqu'à maintenant. Maintenant, on va vraiment y faire face. C'est que faire face à ces maladies, face à ces immunodéficiences, que faire si on a l'herpès, que faire si on a le sida. Alors toi, depuis le début de l'émission, tu nous dis, oui, il y a des manières de. On n'est pas complètement impuissant, il y a des choses à faire. Alors maintenant, tu as le micro, vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on va commencer par l'herpès. Que peut-on faire si on a des herpès?
Bon, alors l'herpès, c'est le bon exemple parce que heureusement je connais des possibilités de traitement et j'en ai vu. Donc, l'herpès, les traitements qui existent en médecine moderne occidentale, ils sont limités aux antiviraux sous forme de crème qu'on pourrait mettre sur l'endroit où ça commence à picoter. Effectivement, si on le met au tout début de la crise, ça a encore quelque chose de fonctionner. Par contre, sur le déroulement même de la crise, une fois qu'elle est vraiment déclenchée, si on s'y est pris trop tard, alors là, zéro terminé, plus aucun effet.
En plus, ce qu'il faut dire, c'est vraiment une application locale, parce que générale, c'est extrêmement dangereux et ça causerait des cancers, c'est carcinogène, etc.
Et bien sûr, ça ne va que pour une petite zone,
ouais.
Hein, bien entendu. Bon, alors, comme vous pouvez l'entendre, c'est pas très joyeux. Alors, qu'est-ce qui existe comme autre possibilité? Alors, nous, on a entendu parler d'une recherche qui avait été faite au Nouveau-Mexique à base d'une plante qui s'appelle l'échinacea, qui est une plante qui est employée par les Indiennes et les Indiens natifs comme releveur de l'immunité. Bon, eux, ils le connaissent, par exemple, pour les piqûres de serpents. C'est sous cette manière-là que ça s'est transmis comme efficace. Mais les herboristes suisses, par exemple, connaissent aussi cette plante et ils la recommandent justement dans la grippe. On parlait tout à l'heure de ces personnes âgées qui sont un groupe à risque pour la grippe et qui en meurent. Et on a effectivement vu qu'en utilisant cette plante, par exemple sous forme de teinture mère, on résiste mieux à la grippe, on ne la fait pas. Alors dans le cas de l'herpès, on a aussi voulu faire cette tentative. Cela se passe au dispensaire des femmes. On a appelé sept usagères qui avaient régulièrement de l'herpès, qui connaissaient bien l'histoire. Et on a essayé de voir avec elles si elles étaient d'accord d'essayer de prendre cette plante régulièrement. Donc il s'agit de la prendre, bien sûr, au moment où la crise commence, de la prendre au moins pendant 3 semaines, et puis après de discontinuer, de manière à pouvoir voir si une autre crise survient ou pas, et aussi de manière à pouvoir la reprendre au moment de la deuxième crise. Si on prenait déjà la teinture mère au moment de l'apparition de la crise, son efficacité est moindre. Voilà donc la proposition qu'on leur a faite. Mais aussi, on a été obligé de s'intéresser aux autres facteurs qui font qu'on est peu résistante ou peu résistant à l'herpès, et leur demander, pendant la crise, d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire de l'alcool, d'arrêter de consommer du sucre, et généralement parlant, dans leur vie en général, d'essayer de diminuer ces excitants, et encore d'accepter que quand la crise d'herpès survient, on est malade, on doit prendre du temps pour se reposer, le facteur repos est fatal, s'il faut absolument qu'on continue à fonctionner au même rythme qu'auparavant, il y a peu de chances que ça marche. Alors sur cette femme, il y en a 6 pour qui ça a marché.